Vous écoutez Radio Campus Lille 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. On poursuit cette émission Quoi de neuf avec la présentation de Heure Exquise, une structure de la région mais qui est nationale, voire même internationale. On verra maintenant, tout de suite d'ailleurs, pourquoi et pour qui, avec Thierry Destrier. Donc bonjour Thierry.
Oui, bonjour René, merci de nous accueillir pour cette émission. Bonjour René, merci de nous accueillir pour cette émission, effectivement, sur Radio Campus. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Campus. Oui, Heure Exquise, effectivement, est une association assez ancienne, puisqu'elle a été créée en 1975 par les pionniers. Donc elle est 50 ans cette année, en 2025. Mm-hmm. C'est un peu un anniversaire, même si on ne le fête pas vraiment en grande pompe. On l'a fêté quand même, de toute façon, entre nous, et on le fête en continuant nos activités de distribution de vidéos d'art et de documentaires. Et nos activités de diffusion également, hein, qui sont les deux pendants de nos activités principales. Je peux peut-être dire deux mots sur effectivement l'activité de distribution, parce que ce mot peut sembler bizarre quand on parle de culture.
Oui, mais bon, des distributeurs,
ça existe.
Quand on fait de la production, c'est une bonne base quand même.
Oui, tout à fait, ça existe. Oui, en fait, Heure Exquise, depuis le début de l'art vidéo, donc depuis que les pionniers s'en sont emparés, a constitué un catalogue de documentaires et de œuvres d'art vidéo, de courts-métrages d'art vidéo, qui sont diffusés effectivement à travers le monde, donc à la fois dans les universités, les centres culturels, les écoles, mais également beaucoup les festivals. Hein. Et donc c'est une des activités importantes, qui est peut-être celle qui est moins visible chez nous, Heure Exquise, une activité qui s'adresse plutôt aux professionnels qu'au grand public. Hein. Donc en fait, on est, nous, le relais entre les artistes, les producteurs et les structures qui vont diffuser, en fait. Hein. Mm-hmm. Et donc, on propose donc ce catalogue largement à l'ensemble, effectivement, des acteurs, et ça depuis des années. Et il est enrichi chaque année par de nouvelles œuvres entrantes. Et là, tout à l'heure, on discutait un petit peu en off avec La Rose des Vents. Effectivement, on serait très intéressés, nous, par voir ce documentaire le 3 avril, et voir si effectivement ça peut rejoindre notre collection, puisqu'effectivement on est très éclectique dans nos choix, hein, donc on ne se contente pas d'une seule forme de création, mais on aime bien effectivement avoir une grande diversité dans notre catalogue.
Alors, autrefois, quand j'étais jeune, tu vois un peu, ça date.
Hein, ça date pour moi aussi. Oui.
Au cinéma, il y avait parfois, avant le grand film, hein, il y avait... on va dire des courts-métrages ou des choses qui pourraient être de ce type d'œuvre.
Oui, on n'est pas vraiment, nous, au cinématographique. Mm-hmm. On est plus, effectivement, sur le pendant art contemporain, oui. Voilà, la vidéodance. Mm-hmm. Quoique, effectivement, on n'a pas beaucoup d'œuvres de fiction dans le documentaire. Hein. On est plutôt, donc, effectivement, sur la vidéo, donc des travaux expérimentaux. Hein, qui travaillent sur le signal, sur l'écriture, des choses comme ça, plutôt que sur la narration, hein, comme ce qu'on peut voir effectivement traditionnellement dans les courts-métrages qui passaient, comme tu dis, à l'époque en première partie de séance. Quoi.
Des festivals de vidéo-art, il y en a en France?
Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Hein, donc, on peut citer Vidéoforme et Clermont-Ferrand, qui existent depuis au moins 30 ans.
Et si on prend le Frénois, par exemple, il y a une diffusion, il y a des présentations de
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a régulièrement des présentations d'art vidéo au Frénois. Les étudiants du Frénois, d'ailleurs, flirtent des fois avec l'art vidéo, ne se contentent pas de réaliser des œuvres de fiction ou théâtrales, spectaculaires, hein, comme les installations, mais également font effectivement des œuvres dites d'art vidéo. Et on a récemment, nous, diffusé au Frénois un petit hommage qu'on a voulu faire à Bill Viola, hein, qui est un maître de l'art vidéo américain, hein, qui est un des pionniers. Mm-hmm. Et avec succès, on a diffusé effectivement un après-midi une sélection de ses monobandes, donc pas de ses installations, mais donc des courts-métrages, des films effectivement qu'il avait pu faire. Et ça a eu un grand succès parce qu'on a fait salle pleine. Donc,
en fait, c'était un visionnaire, hein, forcément.
C'est un visionnaire,
ouais. C'est un visionnaire. Ouais. Et moi, j'ai vu des œuvres de lui dans diverses expositions dans la région. Et à chaque fois, on est surpris par, on va dire, la pertinence de ce type de réalisation dans un moment où c'était le début des technologies.
Complètement. Il a complètement intégré les technologies vidéo depuis le début. Les œuvres qu'on a montées d'ailleurs étaient des œuvres historiques qui donnaient la part belle effectivement à ces technologies du début, qui étaient quand même très rudimentaires, il faut le savoir.
Ouais.
Hein, mais il a aussi travaillé beaucoup le signal, il a travaillé l'attente, il travaille le temps. hein, qui est une des composantes importantes de l'écriture de l'art vidéo, hein, la durée. Hein. Le hors-champ également, ce qui se passe à l'extérieur et qu'on ne voit pas. Donc, oui, Bill Violet est un pionnier, mais il y en a d'autres. Et nous, dans notre catalogue, on a quelques pionniers, on en est très fiers d'ailleurs. Un pionnier français en particulier, comme Robert Cahen, par exemple, ou Jean-François Guiton, qui sont des gens qui sont moins connus, bien sûr, que Bill Violet, mais qui n'en sont pas moins talentueux et qu'on diffuse très largement à l'occasion d'expositions, de rétrospectives, ou dans les festivals, évidemment. Alors,
certaines œuvres vidéo se retrouvent dans des collections privées, une fois qu'elles sont mises à disposition d'exposition.
Ça arrive, tout à fait. Hein. Ça arrive à Beaubourg, donc Centre Georges Pompidou, a acheté effectivement régulièrement, depuis des années, effectivement, a constitué un fonds d'art vidéo qui présente dans ses collections régulièrement à l'occasion d'expositions temporaires ou dans les expositions permanentes. Beaucoup d'américaines, moins de françaises, on peut le regretter, hein, mais moins d'européennes d'ailleurs. Mais c'est également effectivement leur vidéo est quelque chose qui a marqué son temps. Il faut le savoir, depuis début des années 70, jusque son éclosion dans les années 80, qui a effectivement reconnu ses lettres de noblesse institutionnelle.
Est-ce qu'il y a une politique des FRAC concernant la vidéo?
Oui, également, tout à fait. Les FRAC achètent aussi la vidéo. Je ne peux pas dire quelle sera leur politique générale, parce que chaque FRAC est quand même très indépendant les uns des autres. Hein, donc, ils n'ont pas du tout la même ligne éditoriale.
Même s'ils ont tendance à travailler un peu en commun en ce moment, depuis 6 mois. Là.
C'est vrai?
Ouais. Ah, je vois les communications qui sont au niveau national, je dis tiens, ça se décline après en région, mais... Voilà, ça peut avoir du sens.
Oui, mais sinon, les FRAC font également acquisition à la fois d'œuvres monobandes, comme on dit, donc de courts-métrages, pour simplifier, mais également d'installations, hein, donc avec des éléments effectivement physiques, de décoration, de choses comme ça, quoi, qui sont présentés régulièrement dans les expositions.
Voilà, donc le catalogue, on en a parlé. Est-ce que vous coproduisez des œuvres?
Non, pas vraiment, on ne peut pas dire ça, parce qu'en fait, on ne met pas d'argent dans la coproduction des œuvres. On arrive, nous, en finale, pour la diffusion, en fait. Donc, il nous arrive des fois de faire un peu de production, mais c'est tout à fait, je veux dire, minoritaire dans le quotidien de nos activités.
Et donc, votre fonds est important? Vous le renouvelez de combien chaque année, en pourcentage ou...
Alors, c'est pas un pourcentage, il y a 4000 titres à peu près. Hein, dans ces 4000 titres, il y a effectivement des fonds documentaires aussi qui ont été apportés, qui ne sont pas effectivement des documentaires que nous avons choisis au début dans les festivals ou sollicités par les auteurs, qui sont les fonds du musée d'Orsay, du musée du Louvre, des fonds documentaires, également du LAM. Mais il y a 4000 titres au total et on rentre, si je peux dire, beaucoup moins de films actuellement que ce qu'on entrait par le passé. Pour la simple et bonne raison qu'on a décidé effectivement d'être un peu plus sélectif, et aussi parce qu'il y a d'autres modes de diffusion maintenant, notamment avec l'Internet, et donc les auteurs des fois ne font pas le choix de déposer leurs œuvres dans notre catalogue. Ce qu'on peut regretter, hein, mais bon, par contre les auteurs fidèles continuent de le faire, et on en trouve aussi régulièrement de nouveaux auteurs, hein, de jeunes auteurs à qui on donne leur chance, notamment dans les inscriptions dans les festivals ou en les présentant dans les cartes blanches. On va faire d'ailleurs une séance de vidéo de découverte de notre catalogue en diffusion au Palais des Beaux-Arts, donc le 29 avril, où on aura effectivement pendant 2 heures la possibilité de découvrir un petit peu ce qui sont nos pionniers, ce qui est constitutif du catalogue. Voilà, ce sera une rencontre avec le public qu'on a envie de faire depuis un petit moment, et qui fait un peu aussi l'arrivée de notre nouveau site internet. Donc je vous invite à le consulter, hein, c'est heure-exquise.org, donc c'est très facile à retenir. Hein. Et il y aura prochainement d'ailleurs sur ce site de la vidéo, hein, en consultation en ligne. Voilà, on est en train d'œuvrer à ça, pour faire effectivement la sélection, demander les accords des auteurs et gérer bien sûr techniquement la mise en ligne.
On a un peu parlé du Frénois tout à l'heure, puisque ces élèves, qui sont déjà des professionnels pour la plupart,
oui, bien sûr,
ont pour une partie importante d'entre eux, réaliser des vidéos d'art. Est-ce qu'il y a aussi d'autres écoles dans la région où on travaille les arts plastiques, etc.,
tout à fait,
et où on produit peut-être de la vidéo?
C'est vrai, ça arrive effectivement avec Tourcoing, hein, l'école des Beaux-Arts Tourcoing-Dunkerque, hein, puisque
tout à fait,
c'est une seule et même école. On rencontre des fois des auteurs aussi, de jeunes réalisateurs, dont on est effectivement ravis, pour lesquels on est complètement ravis, effectivement, de défendre le travail. Mais pour le Frénois, on a également fait une sélection annuelle, en fait. avec l'aide de Nathalie Treblick, hein, qui est la personne qui s'occupe effectivement de la distribution, diffusion en interne au Fresnois. Elle nous fait régulièrement des propositions et on travaille aussi de cette manière-là, en sachant qu'ils ont effectivement, on est un relais de plus, hein, puisqu'ils ont déjà la possibilité d'avoir effectivement quelqu'un qui les défend bien et qui les présente dans les festivals et puis les centres d'art.
Donc vous comment on peut dire, vous louez, prêtez, vous vendez des productions sous quelle forme, quel format et par quel moyen de distribution?
Alors bon, mais essentiellement maintenant, ce sont des fichiers, évidemment. Donc c'est envoyé par l'internet. Par contre, on diffuse très peu sur l'internet. On diffuse effectivement plutôt en présentiel. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les droits les droits d'auteur qui sont perçus à chaque diffusion et qui sont reversés sous forme de royalties. Désolé d'être un peu technique, mais sous forme de royalties aux auteurs ou aux producteurs avec qui nous avons signé les contrats de distribution. En sachant que notre champ est la distribution toujours non commerciale. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille très très peu avec les télés et très peu avec les cinémas, avec les billetteries CNC, quoi, par exemple.
Est-ce qu'on peut interroger votre fonds documentaire par critères, par exemple, on est intéressé par tel domaine, de société ou de l'armée, avec une vision sociétale? C'est possible.
Oui, c'est possible. Il y a effectivement des mots-clés sur le site. Il y a des grands genres, donc en vidéo, documentaire, vidéo danse, etc. Un système de mots-clés, un système effectivement aussi de catégories, donc art, culture, société, politique, etc. qui a été effectivement mis en place dans la refonte de notre nouveau site. Donc, il est tout à fait possible. Et on peut aussi faire maintenant ce qu'on fait tous dans les recherches, comme on a l'habitude dans Google, les recherches full texte, où effectivement là on a des occurrences beaucoup plus importantes, avec des thématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, mais qui effectivement facilitent l'accès effectivement aux recherches.
Donc votre base stratégique est dans la métropole lilloise?
Oui, tout à fait. Pour la métropole lilloise, on est installé à Lille, en fait, rue Armand Carrel à Lille, au quartier Moulin. Mais en fait, notre travail, il est principalement, je veux dire, national, et européen, et quelquefois international, puisqu'on travaille régulièrement avec les universités du Canada et des États-Unis. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps ça va durer, vu les contextes actuels et ce qu'on entend.
Oui, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, et puis ça va l'être de plus en plus. On travaille aussi avec les festivals européens et les centres d'art européens assez régulièrement.
Est-ce qu'on peut dire que certaines productions évoluent plus positivement que d'autres en termes de qualité? Je parle de pays. Peut-être des pays émergents qui ont aussi des choses intéressantes à présenter.
Oui, complètement. Je ne peux pas te parler d'évolution, je n'ai pas le recul suffisant nécessaire pour effectivement analyser ce que serait la tendance actuelle de l'art vidéo. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques années, on voit de plus en plus de vidéos qui questionnent le réel. Et que des fois, les frontières avec le documentaire sont de plus en plus étroites. Ça, c'est une constante, par contre, qu'on a remarqué depuis plusieurs années. Et donc, ce qui nous intéresse, nous aussi, d'ailleurs, c'est aussi le réel. C'est pas que l'art vidéo, puisqu'on a également pas mal d'œuvres de documentaires au sein de notre catalogue. Et quelquefois, le documentaire, lui, flirte avec la fiction aussi. Donc, vous voyez, les catégories sont poreuses, il faut le savoir. En audiovisuel, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est un peu technique, mais en vidéo, les catégories sont assez poreuses entre les différents genres.
Est-ce que vous avez une interrogation de votre base qui est un peu en phase avec l'interrogation des gens sur l'évolution de la société?
Non, on a une collection qui effectivement est dynamique, mais on n'a pas effectivement cette spécificité, non.
C'est vrai qu'il y a des grands moments, des grands moments de clivage du monde, on peut dire ça, des ruptures en tout cas. Est-ce que vous encouragez les jeunes cinéastes d'art, par exemple, à s'emparer de ces sujets?
Bien sûr. Évidemment, mais quand on est en recommandation, effectivement, quand par exemple, on participe à des jurys de sélection, de choses comme ça, ou quand on participe à des commissions de production, j'ai pu avoir la chance de le faire il y a quelques années, en documentaire à la fois, mais aussi pour de la vidéo d'art. Bien sûr, on les encourage, mais notre travail, il est plus de les encourager à utiliser le médium, parce qu'on y croit. Effectivement, on pense que c'est une forme d'art qui est un creuset global, qui effectivement permet d'aborder de multiples facettes des arts multiples, et de effectivement s'intéresser à pas simplement l'écriture cinématographique, mais d'aller au-delà.
Alors, tout à l'heure, je suis allé à Cerimania Institute, enfin Cerimania, c'est en ce moment. Hein.
Oui, qu'on connaît bien.
Et donc, j'ai vu beaucoup de jeunes qui se passionnent forcément pour les séries et qui en vivent ou qui voudraient en vivre. Il y a beaucoup de métiers hein, dans ces domaines-là. Je me dis qu'on peut imaginer aussi des vidéos qui serait sous forme de série ou...
Complètement. Pour répondre à la question que tu posais précédemment, d'ailleurs, sur les différentes tendances, c'est une tendance forte. Il y a effectivement des artistes qui travaillent désormais effectivement sur des modèles de séries, comme ça, et surtout sur la série documentaire. Et on envisage d'ailleurs dans notre prochaine saison, donc toujours en 2025, mais dans la deuxième partie de 2025, de travailler sur une journée d'études sur la série documentaire, de manière à faire peut-être pas le point, ça sera un peu prétentieux de le dire, mais faire effectivement un focus sur où en est la production documentaire de séries actuellement. Quoi. Donc, voilà. Et comme je disais, les contenus étant poreux, on parlera effectivement de la série tout court aussi.
Hein. Est-ce que dans la région, il y a Pictanovo, il y a quand même...
À qui on travaille régulièrement, hein, évidemment.
Il y a quand même des structures qui travaillent dans ces domaines-là, qui sont importantes, qui sont amenées à travailler ensemble aussi. Mm-hmm. Ça fait un vrai pôle image quand même en France hein, que la région.
Tout à fait. Il y a l'INA aussi, la délégation régionale de l'INA, dont on ne parle pas souvent, mais qui fait un travail très intéressant de fond. Et pas simplement en vendant ses archives, hein, c'est un peu l'image qu'elle a, hein, mais aussi en faisant de l'action culturelle. Hein, en proposant effectivement des partenariats. On a régulièrement, nous, des partenariats avec la délégation régionale, notamment sur notre manifestation Musique Vidéo Art, hein, qui fait la part belle au documentaire musical, où effectivement on passe des émissions historiques sur le rock, où on passe effectivement des émissions sur tel ou tel artiste de la chanson française ou du rock. Voilà, donc Pictanovo est un outil bien sûr essentiel quant à la production, hein, mais s'occupe pas vraiment de diffusion. Hein, donc les diffusions sont faites par d'autres acteurs en région, dont nous.
Est-ce qu'il y a un comité de sélection ? Est-ce que vous avez des personnes qui représentent des structures audiovisuelles qui y sont intégrées ?
Non. Dans notre comité de sélection, en fait, c'est principalement effectivement les salariés qui travaillent effectivement au sein de Rexkiz, avec effectivement aussi un appel régulier à nos bénévoles. Lorsqu'on a doute, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque c'est un artiste que l'on suit depuis des années, on revisionne le film entre nous, hein, entre professionnels de l'association. Mais lorsqu'il s'agit de nouvelles entrées, oui, on organise des comités de visionnement, hein, de manière effectivement à prendre des avis différents, parce qu'on ne sait pas tout, on peut aussi passer à côté de choses intéressantes. Hein. Mm-hmm. Et donc souvent, c'est d'ailleurs très intéressant parce que nos bénévoles, qui sont des professionnels aussi hein, de l'audiovisuel, du cinéma ou de la culture, voient des choses qu'on n'aurait pas vues, hein, ou perçoivent des contenus, effectivement, sur lesquels, je ne vais pas dire on serait passé à côté, mais sur lesquels on aurait été moins pertinent.
Voilà, donc pour les années qui viennent, vous voyez ce genre en capacité à se développer encore ou il a trouvé son équilibre ?
Oui, il a trouvé son équilibre. Hein. Je pense que ça va effectivement continuer pour les nouvelles entrées au catalogue régulièrement. À nous aussi d'aller faire un peu de prospection, de dénicher dans les festivals les perles rares. Ce qu'on aimerait bien faire plus, mais bon, on est une petite équipe, hein, on n'est que 5 permanents, hein, donc on a un peu des fois du mal à se déplacer, mais on le fait. Hein, on le fait notamment aussi pour notre programmation de diffusion. En disant les festivals qui sont spécialisés, comme le festival musical écran de Bordeaux, sur tout ce qui est documentaire musical, qu'on accueille d'ailleurs, et c'est pour ça que j'en parle comme à bon escient, qu'on accueille ce soir d'ailleurs dans une carte blanche au Palais des Beaux-Arts à 19h30, une carte blanche à ce festival auquel on a pu effectivement assister en début d'année. Hein, donc voilà.
Bon, bah, je pense qu'on a dit en gros. Ce que vous proposez au grand public, mais aussi aux acteurs de la culture.
Oui, en fait, j'aurais bien aimé parler un peu plus de la diffusion en fait, qu'on organise, puisque cette diffusion n'est pas que de notre catalogue, enfin, heureusement. Parce qu'effectivement, ça serait un petit peu de l'autopromotion, mais on fait souvent, nous, appel à des distributeurs extérieurs et on propose vraiment une saison culturelle de documentaires, avec un peu de fiction aussi de temps en temps, hein, suivant les thématiques. Hein. Documentaires, notamment par cycle. Et là, on a fait cette année un cycle sur le disco, un peu en écho à l'exposition Disco I'm Coming Out de la Philharmonie à Paris.
C'est ça, oui.
Ouais, tout à fait. Et qui marche assez bien, donc on est assez content des retours. Surtout que ça présente le disco non pas simplement comme les boules à facettes et les paillettes et les vestes cintrées, mais également comme une musique qui, effectivement, aux origines d'une certaine contestation, hein, et d'une certaine revendication sociale.
Hein, donc, je crois que la Philharmonie, ils ont mis l'accent aussi sur l'aspect question de genre, etc.
Tout à fait, sur, effectivement les aspects LGBT, hein, puisque le disco la communauté LGBT s'est emparée effectivement du disco comme effectivement une forme d'expression, peut-être pas contestataire, mais d'expression au moins. Hein. Et le disco a été un formidable creuset à la fois pour les Afro-Américains, les communautés LGBT, mais aussi les femmes, hein, qui ont effectivement trouvé là le moyen de revendiquer effectivement une sexualité, une affirmation d'elle-même à la fois dans la danse et dans les chansons. Hein. On a beaucoup d'artistes femmes qui font effectivement traverser le disco, hein, et qui sont restées effectivement encore aujourd'hui. Hein, donc voilà. Donc sur la diffusion, je pourrais en parler pendant des heures. Hein, donc notre, si je veux pas non plus trop monopoliser la parole. En fait, on fait principalement nos séances de projection au Palais des Beaux-Arts de Lille, à l'Auditorium, mmh, et au Frénois, avec lequel on travaille depuis effectivement des années maintenant, mmh, avec un équilibre qu'on essaie de faire plutôt au Frénois, ce qui est cinéma, écriture cinématographique, patrimoine, documentaire, etc. Et plutôt les découvertes au Palais des Beaux-Arts. Et donc, on essaie en dehors des cycles qui sont récurrents. On a fait des cycles sur les laissés pour compte aux États-Unis, sur les Afro-Américains. On a fait un cycle sur la communauté LGBT qu'on reproduit effectivement à chaque saison. C'est une chose qui nous tient vraiment à cœur. Parce que d'abord, il n'y a pas grand-chose sur l'île qui se fait à ce niveau-là en termes de projection, hein, cinéma et vidéo, d'une part, et puis aussi parce que pour nous, c'est un combat qui nous semble essentiel à mettre en valeur, encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui d'ailleurs, avec les menaces qui pèsent sur cette communauté, hein, partout dans l'Europe. On aime bien, effectivement, nous, dans notre saison, montrer un petit peu des choses qui dérangent, ou montrer la face cachée de l'iceberg, si j'ose dire. Il y a un slogan qui se dit Make America Great Again, hein, donc ça, nous, on est plutôt contre ça, quoi. Voilà. Hein, on veut montrer, effectivement, si ce qui existe réellement dans ce pays, notamment, et comment, effectivement, les gens sont complètement assujettis et dominés par la puissance économique et par l'argent, et comment, effectivement, ce racisme continue à croître et à se multiplier aux États-Unis, par exemple. Hein. Mais on aborde bien sûr bien d'autres thèmes dans notre saison. Hein. Ça serait un peu long à expliquer. On a à peu près 25 projections par semestre. Donc voilà. On espère pouvoir faire une saison aussi riche le semestre prochain. On est comme tout le monde. Hein. Tout à l'heure, notre collègue de La Rose des Vents parlait d'inquiétudes. Ces inquiétudes sont légitimes. Nous aussi, on a des inquiétudes, hein, donc, sur le fait de pouvoir continuer de manière aussi dense notre saison culturelle. Avec, bien sûr, on a des projets, en plus des cycles LGBT, on a des coups de cœur, on a envie de montrer des films qu'on a découverts dans les festivals, qui ne sont pas forcément intégrés dans des cycles, mais qui sont effectivement intéressantes, puisqu'on a envie, nous, d'être un peu les défricheurs et les faire retrouver ici au public local.
Alors, tu sais que la page Facebook de cette émission, hein, Quoi de neuf à Lille, ouais, accueille volontiers vos propositions. Hein,
oui,
donc n'hésite pas à enrichir et proposer les dates que tu trouves les plus significatives pour le public régional.
Oui, complètement. Et ça, notre chargée de communication, Céline, a bien compris le message. Il n'y a pas de problème. On le fait. On remercie d'ailleurs Radio Campus parce que c'est une histoire qui dure depuis aussi longtemps que Rexquise existe, d'ailleurs.
Écoute, on s'est connus du temps d'avant Pictanovo, tu vois.
Ah oui, c'était au début. Que
c'était tout au début. Hein,
le Crave, ça s'appelait.
Le Crave et avant le D'accord. Enfin, voilà, quoi. Donc, toute une période où l'audiovisuel a commencé à se développer, à prendre ses marques, à être soutenu aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, nous, on est, moi peut-être pas parce que je suis un petit peu trop jeune pour ça, hein, mais nos fondateurs, Esquisse, ont suivi effectivement cette évolution depuis le début. Hein. Et on leur doit d'avoir effectivement créé une structure qui tient la route, hein, et qui répond effectivement à des besoins sur le terrain, des besoins qui sont quasiment des besoins, je veux dire, entre guillemets, de service public, quoi. Hein.
Bien, merci Thierry Destrier pour cette présentation. Et puis,
n'hésitez pas à consulter le site internet pour avoir toutes les informations concernant les séances et de vous abonner à notre newsletter. C'est très simple, il suffit d'aller en ligne et de vous y inscrire. Merci
donc,
beaucoup.
C'est heurexquise.
heure-exquise.org.
Voilà.
Et pour les billetteries, c'est marqué en gros et en rouge sur la première page billetterie. Donc vous ne pouvez pas le louper.
Impeccable. Et puis si jamais vous passez rue Armand Carrel, c'est au numéro 8.
C'est au numéro 8, oui. Ouais. Il est toujours possible de sonner.
Et ben voilà.